C'est vraiment, c'est capital dans la pensée de Thérèse, comme dans la pensée catholique. Si je ne plais pas, si je ne me plais pas à moi-même, je plais à Jésus. Thérèse expliquait déjà cela à Céline en janvier 1889, quelques 15 jours avant l'internement de M. Martin au Bon Sauveur de Caen. Tu ne sens pas ton amour pour ton époux, Céline. Tu voudrais que ton cœur soit une flamme qui monte vers lui sans la plus légère fumée. Fais bien attention que la fumée qui t'environne n'est que pour toi, pour t'ôter toute la vue de ton amour pour Jésus. La flamme n'est vue que de lui seul. Au moins, il l'aura tout entière. Car pour peu qu'il nous la montre un peu, vite l'amour propre vient comme un fatal vent qui éteint tout. Si tu ne vois pas ton amour pour le bien-aimé, lui le voit. Et moins tu le vois, plus ça lui plaît. Parce qu'au moins, ton amour n'est pas gâté par l'amour propre. Autrement dit, c'est l'humilité qui plaît par-dessus tout à Jésus. Et Thérèse commentait en ce sens un passage assez bizarre du Cantique des Cantiques. Nous vous ferons des chaînes d'or marquetées d'argent. Des chaînes d'or marquetées d'argent. Quelle chose étrange, commente Thérèse. Il serait plus compréhensible que l'époux dise à sa bien-aimée, nous vous ferons des colliers d'argent marquetés d'or. Ou des colliers d'or marquetés de pierres précieuses. Car habituellement, on ne rehausse pas un bijou de prix par un métal inférieur. Pendant mon oraison, Jésus m'a donné la clé du mystère. J'ai compris que ces colliers d'or figuraient l'amour, la charité, ce qui est excellent, ce qui est le plus important, et qu'ils ne pouvaient être agréables à Jésus qu'autant qu'ils étaient marquetés d'argent, c'est-à-dire d'humilité, de simplicité, d'esprit d'enfance. Oh, qui pourra dire, ajouta-t-elle, la valeur que Dieu attache à ses humbles vertus, puisque seules elles sont trouvées dignes de rehausser l'éclat de la charité. Donc, une épouse qui sait qu'elle est capable de plaire à son bien-aimé, une épouse qui sait aussi qu'elle est féconde, que sa vie est utile. Vous savez que dans ce grand poème d'amour du Cantique des Cantiques, on ne voit jamais apparaître d'enfant. Or, on sait que les enfants ont une très grande place dans la conception biblique du foyer. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'enfants? Parce que ce n'est pas un couple comme les autres. C'est l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est l'alliance entre Dieu et chacun des membres de son peuple. Il n'y a donc pas d'enfants dans ce couple original que nous montre le Cantique. Mais l'épouse est accompagnée de demoiselles d'honneur qui sont entraînées vers l'époux à la suite de l'époux. Et l'épouse n'est absolument pas jalouse de cet attrait exercé par son époux sur toutes ses compagnes, bien au contraire. Et elle chante dès le début du poème, « Attire-moi, maître, attire-moi, Seigneur, nous courrons à l'odeur de tes parfums. » Et Thérèse explique qu'un jour, après avoir communié, elle a été dans l'admiration de ce contraste qui existe dans le Cantique entre la première personne du singulier et la première personne du pluriel. Depuis que j'ai deux frères et mes petites sœurs les novices, si je voulais demander pour chaque âme ce qu'elle a besoin, c'est une petite faute là, ce dont elle a besoin, les journées seraient trop courtes et je craindrais fort d'oublier quelque chose d'important. Aux âmes simples, il ne faut pas de moyens compliqués. Comme je suis de ce nombre, à matin, pendant mon action de grâce, Jésus m'a donné un moyen simple d'accomplir ma mission. Il m'a fait comprendre cette parole du Cantique des Cantiques, « Attirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums. » Ô Jésus, il n'est donc même pas nécessaire de dire « En m'attirant, attirez les âmes que j'aime. » Cette simple parole « Attirez-moi » suffit. Seigneur, je le comprends, lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même, ô mon Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour attire avec elle tous les trésors qu'elle possède. En me laissant attirer dans le silence de mon oraison contemplative, par la beauté et l'amour de Jésus, voilà que j'attire vers lui, sans le savoir, toutes les demoiselles d'honneur qui sont avec moi. Je suis féconde. Et cette fécondité est signifiée par la présence de ces demoiselles d'honneur. L'épouse du psaume 44 savait elle aussi que sa vie était féconde. L'auteur de l'épitalame royal le lui dit, à la place de tes pères que tu as quittés pour rejoindre le roi, à la place de tes pères te viendront des fils, tu en feras des princes par toute la terre. Autrement dit, Thérèse se présente devant le Seigneur comme une reine. Thérèse n'est pas toujours en train de dire « Je ne sais rien, je ne vaux rien, je suis une pauvre pécheresse, heureusement que le Seigneur a pitié de moi ». Elle le dit, mais 3 minutes après, elle se redresse de toute sa taille et elle sait qu'elle est une reine, capable de plaire à son roi et d'obtenir de lui toutes sortes de grâces. Quelle est donc grande la puissance de la prière ? On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Ou encore, pour moi, la prière c'est un élan du cœur, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Il est vrai que Thérèse était la petite reine de Monsieur Partin. Si vous prenez une concordance des œuvres de Thérèse, vous verrez le nombre de fois qu'elle emploie ce terme pour rappeler la façon dont son papa l'appelait au buissonnet, « ma petite reine »,« reine de France et de Navarre », disait-il, tandis que M. Martin était pour elle son roi. Enfin, elle trouve dans le cantique cette idée que la colombe aime se blottir dans le creux du rocher. Et Thérèse collectionne les images du Sacré-Cœur qui rappellent cela. Habituellement, elle n'aime pas tellement les images du Sacré-Cœur, mais quand c'est une image où Jésus présente son cœur et que la légende de l'image dit que c'est une paisible retraite, « Dans le creux du rocher, j'ai fixé mon séjour, là je ne craindrai plus les griffes du vautour. » Ah, à la bonne heure, cette image, je la conserve parce qu'elle me rappelle que je peux me jeter, me cacher en Jésus, dans le cœur de Jésus, comme j'aime me cacher dans la sainte face de Jésus. C'est en ta bonté toujours infinie que je veux me perdre au cœur de Jésus. En ton cœur sacré, Jésus, je me cache, je ne tremble pas, ma vertu c'est toi. Afin de pouvoir contempler ta gloire, il faut, je le sais, passer par le feu, et moi je choisis pour mon purgatoire ton amour brûlant au cœur de mon Dieu.